19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir tout le monde, je suis très très heureux de recevoir Gilles Kepel pour Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire, qui est un de ses meilleurs livres où il revisite toute son existence, toute son expérience d'enquêteur, de spécialiste, de prof sur l'islam, le monde arabe. Vous êtes un prophète depuis 1984, puisque vous aviez déjà publié Le Prophète et le Pharaon à l'époque, c'était sur les islamistes égyptiens. Et depuis, ça ne vous a pas lassé. Il y a eu l'assassinat de Sadat. Vous n'avez jamais eu marre de prêcher dans le désert depuis 40 ans.
Si, justement, c'est pourquoi j'ai décidé d'y mettre fin. Malheureusement, les événements ont souhaité me rattraper, puisque à peine le livre avait-il été publié, il y a eu la razzia holocauste, si j'ose dire, du 7 octobre en Israël, à partir de Gaza, et puis l'enchaînement des causes et des circonstances, le bombardement israélien sur la bande de Gaza, toutes les tensions que ça suscite dans la région, à l'international et y compris dans notre pauvre France.
Oui, alors on vous entend un peu partout, mais ici on a vraiment plus de temps pour disséquer votre pensée. Il y a l'expression « djihad d'atmosphère » que vous lancez dans ce livre, « Prophète en son pays », et qui semble résumer une certaine ambiance, c'est vrai, qu'on peut voir en France, mais aussi à New York, à Harvard, à Columbia, à Londres, un peu partout. Alors expliquez ce que c'est que ce djihad d'atmosphère.
En fait, c'est le djihadisme d'atmosphère. Mmh. En 2021, peu après les assassinats de Samuel Paty, des quatre personnes qui sont mortes à Nice, poignardées dans la basilique, et puis après la tentative d'un Pakistanais qui avait regardé des choses sur son téléphone, regardé de grosses manifs anti-françaises à la suite de la republication des caricatures par Charlie Hebdo, alors que le procès se déroulait à ce moment-là, et qui a pris une feuille de boucher, il ne connaissait pas un mot de français, mal l'anglais, il est allé, il a cherché sur l'internet, mais il s'est trompé l'adresse de Charlie, et il est allé essayer de tuer avec la feuille de boucher deux malheureuses qui fumaient une cigarette pendant leur pause clope, qui travaillait dans une entreprise quelqu'un X qui avait pris la place des locaux de Charlie. Et donc, ça m'a beaucoup frappé parce que autant Al-Qaïda que Daesh, chacun à sa manière différente, étaient des réseaux avec des donneurs d'ordre qui mettaient les gens en situation de commettre des attentats. Par exemple, le 11 septembre, c'est une décision qui est prise par les cerveaux d'Al-Qaïda, Ben Laden et Zawahiri. On va former les personnes en question les camps d'entraînement. On paye des écoles de pilotage américaines. Et puis ensuite, ils sont déclenchés pour aller sur les tours jumelles, et sur le Pentagone et aussi, en principe, sur le Capitole. Mais une révolte des passagers a fait tomber l'avion. Pareil dans le cas de Daesh. Voilà, vous avez le Bataclan, qui a été préparé par des gens qui étaient des Européens partis au djihad en Syrie, qui s'occupaient d'opérations extérieures, ou bien par exemple, quelque chose auquel j'étais très sensible moi-même parce que j'en ai été la victime, à savoir l'attentat de Magnanville, qui vient d'être jugé, oui, un policier, et son épouse, qui ont été égorgés devant leur petit enfant. Et un complice, donc présumé, a été jugé et condamné récemment. Et quand ce djihadiste donc avait reçu l'instruction de faire ça, et surtout, parce qu'il ne connaissait ni moi ni personne, à la fin, après avoir commis son crime, il a fait une vidéo sur Facebook Live, dont j'ai découvert l'existence à Stockholm du journal, du reste, en disant « Je vais être un martyr, mes frères et mes sœurs, mais vous devez tuer tous les mécréants et d'abord les journalistes, et d'abord Gilles Kepel. » Oui. Bon, d'abord, pas être assassiné comme journaliste, mais comme professeur, même si l'université me chasse aujourd'hui, on a sa dignité.
On va en parler. Ce djihadisme d'atmosphère, Vous l'avez étudié un peu depuis 40 ans, tel Tintin au pays de Daesh, Al-Qaïda, du Hamas, du Hezbollah, des frères musulmans, des talibans, des mollahs iraniens. Comment faire la paix avec ce monde-là? C'est ça la question, au fond, la plus simple et la plus stupide, mais vous qui connaissez tous ces mouvements depuis si longtemps, vous avez l'impression qu'on pourra à un moment arriver à faire la paix?
Si on essaye de comprendre la logique profonde du phénomène, par-delà la monstruosité d'un certain nombre d'acteurs, vous avez eu un processus de paix qui a été mis en œuvre par les États-Unis qui s'appelle les accords d'Abraham et qui, au fond, considérait que la prospérité allait être la clé de la paix. Si tout le monde faisait du business ensemble, au lieu de préférer faire du business plutôt que s'entretuer. Tout ça, c'est une logique tout à fait fondatrice du capitalisme depuis l'éternité. Le seul problème, c'est que dans cette affaire, les Palestiniens et surtout ceux de la bande de Gaza ont été évacués telle la poussière qu'on met sous le tapis. Et c'est ça qui crée la dynamique du soulèvement. Alors après, vous avez derrière, évidemment, l'instrumentalisation de Hamas par l'Iran, qui trouve que c'est une bonne idée, sans doute, de déclencher le cataclysme, juste après que deux ministres israéliens ont été pour la première fois reçus en Arabie Saoudite. Oui. Puisque si la dynamique pacifique et commerciale, disons, s'étend au géant de la région, qui est l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman, avec sa politique tous azimuts, si vous voulez, qui est plus du tout celle du wahhabisme de grand-papa, c'est complètement transformé dans sa logique. Alors, à ce moment-là, l'Iran est très embêté, parce que l'Iran est le grand rival de l'Arabie Saoudite autour des eaux du Golfe, que les uns appellent arabique et l'autre persique, en France c'est plutôt persique. Et, vous voyez, Israël dispose d'un système qui s'appelle le dôme de fer, qui permet de ne pas être importuné par les missiles qui sont tirés dessus depuis le Liban ou Gaza. Et l'Iran instrumentalise des Houthis, qui sont une secte hétérodoxe du chiisme qui contrôle le Yémen aujourd'hui, pour tirer des missiles qui atteignent jusqu'à l'aéroport de Riyad en Arabie Saoudite, ou le Hezbollah irakien, un autre proxy, comme on dit en anglais, qui, il y a quelque temps, avait réussi à envoyer des missiles qui ont détruit pendant 48 heures, obligé de fonctionner, le grand centre d'extraction de pétrole et d'embarquement de Khobar, mettant les marchés mondiaux tout d'un coup dans une angoisse épouvantable.
Votre premier choix musical, c'est Oskar Nedbal, un compositeur tchécoslovaque, car vous êtes l'auteur de Enfants de Bohème, et on va en parler, vous êtes d'origine tchèque. Et c'est la valse triste par l'orchestre philharmonique de Tchéquie, dirigé par Václav Neumann en 1980.
Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Je suis toujours avec Gilles Kepel pour Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire et nous sommes sur Radio Classique et nous sommes dans le salon chinois chez La Pérouse dans des conditions idylliques pour parler de l'horreur du monde. Vous dirigez la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'École Normale Supérieure, mais le poste sera supprimé le mois prochain, c'est bien ça?
Voilà, la chaire est supprimée le mois prochain. Mes enseignements ont déjà été fermés depuis l'année dernière. Sous le prétexte futile, bon, j'ai 68 ans et je vais prendre ma retraite bientôt, mais on l'a anticipé, on me pousse le plus vite dehors possible pour me remplacer par des études sur le sud global. C'est-à-dire que on considère que ce que j'étudie aujourd'hui n'a aucun intérêt, comme s'en rendent compte sans doute tous ceux qui suivent l'actualité, que d'avoir 40 ans d'expertise sur cette question, c'est nul, il ne faut plus former d'étudiants, et il faut remplacer le savoir par l'idéologie. Non.
Pensez que c'est une censure un peu woke.
C'est un mélange de censure woke qui n'est même plus perçu comme de la censure parce que c'est l'esprit dominant en sciences sociales. Mmh. C'est aussi un signe d'une immense connerie, il faut bien le reconnaître. Mais bon, moi, ça m'est indifférent à titre personnel. Je n'ai plus besoin de ça pour exister, ni être travailler, ni avoir une réputation. Je fonctionne ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un véritable problème dans notre société. Et quand on voit la manière, justement, dont un certain nombre de jeunes réagissent à la situation en Israël et en Palestine de façon
manichéenne,
oui. Et donc le recul n'est plus fourni, y compris chez des étudiants, j'en suis très, moi, personnellement, très nari, même si certains de mes anciens étudiants font partie de ceux qui sont les plus déchaînés. Mais je trouve quand même que c'est affligeant que notre université soit là, alors qu'on avait été, pendant ces 40 dernières années, justement, plutôt en pointe dans la connaissance du monde arabe et musulman contemporain.
Oui, est-ce que ce qui risque de disparaître, ça n'est pas justement la complexité? Parce que quand on vous entend, on comprend pas forcément, d'ailleurs, tellement c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est pas la faute de l'École Normale Supérieure, c'est que les réseaux sociaux aussi obligent à simplifier. Et il y a un problème qui est la lâcheté. On est sommé de choisir son camp, et si on le fait, en plus, on est menacé par l'autre camp. Il y a quelque chose là qui rend toute discussion presque impossible sur le sujet.
Oui, bien sûr, et qui pose aussi le problème de la disparition du livre, si vous voulez, qui est remplacé par
le tweet.
Par le tweet, et aussi par le fait que un livre est quelque chose de complexe et de contradictoire. C'est un processus qui demande du temps, etc. Alors que sur les réseaux sociaux, de manière préférentielle, vous allez retrouver votre famille, c'est-à-dire d'esprit, ceux qui pensent comme vous. Donc, il y a un principe de
non-conversation,
de non-contradiction, de non-dialogue au sens socratique, si vous voulez, au sens où le logos Exactement. Passe à travers les uns et les autres pour arriver à construire ce qu'on peut espérer être la vérité ou une forme de vérité. La vérité est déjà là, elle est déjà prescrite. Et ça donne, par exemple, les propos qui me semblent complètement délirants, adressés à tous ceux qui voudraient participer à la manifestation contre l'antisémitisme qui va se tenir à Paris ce dimanche. Et où, au fond, il n'y a plus de mise en perspective, il n'y a plus
Est-ce
de capacité...
Est-ce que ce n'est pas aussi une question de peur? C'est-à-dire que la peur de paraître islamophobe empêche de critiquer le fanatisme, et puis de même la peur de paraître antisémite empêche de critiquer le gouvernement israélien. Et pourtant vous faites les deux. Vous critiquez Netanyahou autant que le Hamas.
Enfin,
je veux dire.
Oui, enfin, c'est pas une sorte d'équivalence.
Non, sans équivalence.
Voilà, non, en tout cas, la critique est au sens grec, c'est-à-dire c'est une analyse du phénomène, la crisis, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'une critique politique. Je ne dis pas que je suis contre un tel ou contre ou pour Y, mais je crois que le rôle de l'universitaire que j'ai été ou de l'intellectuel public, je suis en train de devenir aussi parce qu'on me fout à la porte de l'université.
On vous voit partout. Hein.
Oui, ça a suscité quelques réactions, mais finalement, je n'ai pas trouvé véritablement de discours structuré qui, outre les machins, Kepel est un salaud, on le voit partout, c'est la seule chose qu'on lit, mais j'attends toujours qu'on me fournisse un vrai débat, justement, mais je l'ai pas vu venir. Et juste, l'idée, c'est que, pour employer un terme que les woke aiment beaucoup, j'essaie de déconstruire. Eux-mêmes déconstruisent tout, sauf le discours des islamistes, par exemple, qui est considéré comme la vérité portée par les peuples du tiers-monde. Et les mises en récit qui sont faites par les djihadistes, par Hamas, par la France insoumise d'un côté, et celles qui sont faites par le pouvoir israélien de l'autre, sont des matériaux que, précisément, celui qui réfléchit, celui qui travaille, celui qui essaye d'aider à l'avenir, doit être capable de déconstruire, pour utiliser le terme de Derrida, cela même que les woke font en permanence contre la culture occidentale, mais dont ils s'abstiennent de tout usage face à ce qui leur paraît être le messianisme des nouveaux damnés de la Terre.
Oui. Alors j'avais un passage de votre livre « Prophète en son pays » que j'aurais bien aimé vous faire lire. Parce que c'est un passage précisément où vous parlez de ce fameux dilemme allégeance et désaveu.
Oui.
Allégeance et désaveu.
Alors, c'est ce qu'on appelle en arabe, donc, el-wala ou el-bara'a, c'est-à-dire l'allégeance exclusive à la charia, dans sa vision la plus stricte, et le désaveu d'avec, c'est du charabia des traductions, la rupture avec les lois des mécréants, par exemple. C'est ce qui fait que vous avez le droit, si vous croyez à ça, de décapiter un professeur parce que il aurait critiqué le prophète ou l'aurait blasphémé. Vous voyez, c'est l'affaire Samuel Paty. Et vous vous désavouez des lois interdisant ce type de crime dans la société française, puisque c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que quand on obéit à la charia dans ce registre-là, on a le droit, le sang des infidèles est licite. Oui. En arabe, damum halal. Alors, selon la logique de ces gens-là, ce qui sépare, entre guillemets, les musulmans qu'ils souhaitent endoctriner des autres citoyens de notre nation, l'emporte sur tout ce que nous avons en commun. Dans leur langage, l'impératif catégorique au sens kantien de tout musulman de France est de pratiquer, justement, l'allégeance et le désaveu, selon la traduction de l'expression arabe « el-wala ou el-bara'a ». Il s'agit du double processus simultané qui est fondateur de la conscientisation, entre guillemets, islamiste. D'une part, il consiste à faire allégeance principielle et unique à l'Oumma, la communauté des croyants de l'islam, et à ses règles et normes représentées par la charia, dans son sens le plus rigoriste. D'autre part, il impose de se désavouer d'avec, dans le blabla des traductions des années 70, d'avec les normes et valeurs des impies ou kuffar en arabe. Ceux des musulmans qui ne pratiquent pas ce désaveu, qui sont très nombreux justement en France, ça demeure la large majorité, sont considérés comme des apostats, mortad, et donc leur sang est encore plus licite. Rappelez-vous que lorsque les frères Kouachi sortent de la tuerie de Charlie Hebdo, ils rencontrent sur leur route un policier, Ahmed Mrabet, qui est visiblement nord-africain. Ils s'arrêtent et ils l'abattent immédiatement, car un policier qui porte l'uniforme de la police, ou un soldat, comme Merah a essayé de tuer des soldats à Montauban, qu'il croyait être des musulmans, ils n'étaient pas tous ayant l'uniforme, il y avait aussi des Antillais, mais c'était pour lui des apostats, mortadines, et leur mort est licite immédiatement, selon cette vision des choses.
Mais alors, ça c'est assez terrifiant évidemment, mais on pourrait vous objecter qu'il faut aider les musulmans à se débarrasser des intégristes violents, et c'est ça le...
Ah oui, c'est
l'objectif. Il faut soutenir absolument les musulmans démocrates.
Il n'y a rien à m'objecter pour cela. C'est-à-dire que, oui, bien sûr. Et ça fait 40 ans ou 50 ans que je vis une grande partie de mon existence avec des musulmans et des musulmanes dont la plupart vomissent ce genre de réaction. Et du reste, se sentent les premiers menacés. Et
bien sûr, victimes.
On le voit bien dans l'évolution de l'immigration, par exemple, les enfants d'immigrés algériens, tunisiens ou marocains qui sont arrivés en France dans les années 60, qui sont nés au pays, ou la plupart nés ici, qui ont fréquenté une école publique qui, à l'époque, était encore mixte, qui fonctionnait, qui favorisait l'ascension sociale. Ces enfants se sont émancipés de la norme héritée du bled, qui était moins sophistiquée qu'aujourd'hui, et sont devenus des Français d'origine musulmane, comme des Français d'origine tchécoslovaco-niçoise, comme vous. Et qui sont mieux réussis que moi, sont préfets, chefs d'entreprise, artistes, etc. Or, aujourd'hui, ce qui se passe à l'école, c'est bien le gros problème. C'est pourquoi il y a eu l'assassinat de Dominique Bernard, par exemple, récemment. L'assassin l'a dit très explicitement. C'est qu'il enseignait aux enfants l'éducation, parce qu'il ne l'a pas tué parce qu'il était Dominique Bernard, un tutu personnel, comme son prédécesseur avait décapité Samuel Paty, parce qu'il avait blasphémé, selon lui, le prophète. Mais c'était le corps enseignant qui était tué. Parce que, justement, en apprenant l'histoire, en apprenant en accoutumant à la laïcité, en faisant partager les valeurs de la République, il mettait en danger la prégnance de cette idéologie islamiste, de ce djihadisme d'atmosphère, sur les enfants d'origine musulmane. Vous voyez Et donc, l'école apparaît comme
l'ennemi.
L'instance qui est sur la ligne de front, absolument.
Votre deuxième choix musical, je n'ai pas de transition particulièrement brillante là-dessus, mais c'est un immense compositeur tchèque, là encore. C'est Antonin Dvorak, le chant de la lune, extrait de La Rusalka, que j'aime tant.
BD sur Radio Classique.
Alors nous avons un amour commun pour ce passage de la Rusalka où elle dit à la lune « Ô toi qui rentres dans toutes les maisons, dis-moi où est mon amoureux ?»
Oui, c'est une ondine qui est sortie de son étang de Bohème parce qu'elle était amoureuse d'un homme et cet homme l'a trompée, elle repart sur les berges, et elle va se jeter, il viendra l'embrasser, mais elle en mourra. Et c'est le dernier opéra de Dvořák. Mon grand-père l'a vu à Prague, au Národní divadlo, au Théâtre National, en 1903, avec ses camarades. Et quand j'ai écrit Enfant de Bohème, à la recherche de mon grand-père, à travers ses lettres, etc.
Rudolf
Keppel. J'ai essayé de... Je ne connaissais pas Rusalka, c'est pour vous dire la vérité à l'époque. Donc je l'ai écouté, je l'ai vu à Prague à l'opéra et il m'a semblé que c'était Un élément très important, parce que justement, vous parlez de ça même, ça fait le lien avec ce que vous me disiez, ce dont on parlait, parce que ça n'est pas parce qu'on a une culture, une appétence, une nostalgie pour les origines paternelles en ce qui me concerne, parce que ma mère était mentonnaise, mais j'y suis très intéressé, et c'est pas pour ça que je suis un agent des intérêts, je ne sais quoi, de la République tchèque, s'ils étaient contre la France, si vous voulez, ou que je considère que la bière, hein, par décret, là, la pivot, oui, est supérieure au Vosne Romanée.
Il se trouve qu'elle l'est quand même. Bon, non, pas au Vosne Romanée. Non, pas au Vosne Romanée.
Je ne suis pas.
Mais la bière tchèque est très bonne.
Quand elle est bien brassée.
Oui, et fraîche. On se retrouve juste après ça.
Demain à 20h. Revivez le concert d'adieu du Quatuor Emerson, enregistré depuis la Fondation Louis Vuitton à Paris. Après 47 années d'interprétation, les quatre musiciens célèbrent leur carrière et la musique française avec l'immense Quatuor en fa majeur de Maurice Ravel. À cette occasion, Francis Drezel consacre une soirée spéciale au Quatuor Emerson jusqu'à minuit. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. Vous pouvez les aider. En faisant un leg, donnez du sens au combat des chercheurs de l'Institut Imagine, comme le Dr Saunier.
Faire un leg, c'est accélérer la recherche, identifier la cause de la maladie chez les enfants, leur apporter un diagnostic, une meilleure prise en charge et trouver des traitements adaptés.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
Piano numérique, acoustique, silent, les plus beaux pianos vous attendent chez Nebu et Am. Bösendorfer, Steingraber, Yamaha, Grotrian, Schimmel. Neuf ou d'occasion, venez essayer, comparer et choisir le piano de vos rêves. Pianiste débutant ou confirmé, les plus belles marques et des offres exceptionnelles vous attendent dans nos trois adresses parisiennes. Rendez-vous sur nebu-am.com. Nebu et Am, la passion des beaux pianos.
Maxime Emelianichev et Il Pomodoro poursuivent leur atypique aventure Mozart. Dans le deuxième opus de cette intégrale des symphonies, Emelianichev confronte la 29e, la magistrale 40e et le concerto pour hautbois dans une interprétation ciselée et lumineuse. Mozart, intégrale des symphonies, volume 2, un album aparté.
Bacchanal, par l'orchestre Divertimento et Zaya Ziwani. Un fascinant voyage musical dans la Méditerranée de Saint-Saëns. Écho au formidable succès cinématographique du film Divertimento, Bacchanal, dirigé par Zaya Ziwani, un album Harmonia Mundi. En tournée du 7 au 16 novembre. Tous les détails sur orchestre-divertimento.com.
C'est tout ce que je trouve de plus beau, comme déclaration d'amour, comme lettre de rupture, depuis que la littérature existe.
Frédéric Becbédé.
C'est 3 millénaires de littérature amoureuse en 1h15.
Au théâtre Édouard VII, l'amour dure 1h15.
Il y aura Tristan et Iseut, qui en réalité est un date rape, puisque Tristan donne de la drogue à Iseut.
Mise en scène par Yann Herrera, du jeudi au samedi, à 22h, jusqu'au 23 décembre.
En fait, c'est un spectacle pour dire que l'amour est la chose la plus dangereuse au monde, mais la seule qui vaille la peine de vivre.
Vivez une soirée d'exception à l'Opéra Royal du Château de Versailles, avec Don Giovanni de Mozart, du 15 au 19 novembre. Meurtre, séduction, ruse, apparition fantastique. Gaëtan Jarry dirige ce chef-d'œuvre absolu, inspiré du mythe de Don Juan. Marshall Pinkowski met en scène cet opéra iconique avec des costumes de Christian Lacroix. Don Giovanni, un événement à ne pas manquer du 15 au 19 novembre à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr.
Radio Classique.
Après l'immense succès de L'île des oubliés et les 5 millions de lecteurs français conquis par Victoria Hislop, découvrez son nouveau roman La Statuette. Elena, héroïne attachante, nous emmène en Grèce où l'attend une enquête captivante aux origines de l'art grec. En remontant le fil de l'histoire de son pays, Elena va renouer avec ses origines et enfin trouver sa place dans le monde. La Statuette de Victoria Hislop aux éditions Les Escales, dès maintenant dans toutes les librairies.
Jusqu'à 20h, Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Je suis toujours avec Gilles Kepel pour son livre « Prophète en son pays » aux éditions de l'Observatoire sur Radio Classique. L'an dernier, vous avez publié « Enfant de Bohème » qui a surpris un peu parce que c'est un livre sur votre grand-père tchèque et qui parle de vos origines slaves, non juives, parce que vous êtes le fils d'un catholique, Rodolphe Kepel.
Le petit-fils.
Petit-fils, oui, oui.
Mon père était communiste.
Et votre père Milan était un communiste qui est devenu anti-communiste après le printemps de Prague.
C'est assez fréquent.
Comme beaucoup, voilà. Qui était comédien et notamment traducteur de Vaclav Havel. C'est un livre, oui, qui est très différent, évidemment, de tous vos essais sur la montée de l'islamisme dans le monde arabe Et on y apprend des choses passionnantes. Par exemple, vous savez tenir tête aux sangliers.
Oui, et c'est peut-être ça qui m'a sauvé, d'ailleurs. qui m'a sauvé du djihad et des condamnations portées à mon encontre par les djihadistes. J'ai passé 17 mois sous protection policière après la fatwa que j'ai rappelée tout à l'heure. Puisque nous avons une résilience assez forte par le village de mon grand-père en Bohême du Sud, à Nadiejkov, près de Tabor, et par celui de ma mère, Gorbio, au-dessus de Menton, dans les Alpes-Maritimes, j'appartiens à des deux familles qui, depuis le Mésolithique, chassent le sanglier. Donc, alors, ça fait 300 000 ans qu'on mange du sanglier, si vous voulez. Donc, d'une certaine manière, ces gènes sont entrés en moi. Croyez être un nez est un boutoir avec lequel je peux envoyer valser tous mes adversaires universitaires avant de leur foncer dessus et avec mes dents aiguisées par le grès comme un rasoir,
je suis un peu effrayé. Je vous le dis, j'ai un petit
mais
peu
mais rien vous arriver.
Mais concrètement, quand un sanglier se met face à vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut pas fuir ? Il faut le regarder droit dans les yeux.
Ça dépend si vous êtes vous-même de leur race ou non.
C'est ça.
Moi, quand ça m'est arrivé dans les Pouilles, justement à côté du château de Frédéric II, matin très tôt, je me promenais, j'aime beaucoup marcher, et tout était illuminé de rose, c'était magnifique. Et puis il y avait une espèce de verger avec un pommier qui avait des pommes pourries par terre. Et là, la horde était en train était en train de manger. Et je suis tombé avec les marcassins qui déboulaient entre mes pieds. Donc la laie s'est mise en position de bataille.
C'est
en
la maman.
En faisant
la
ça,
maman,
la maman sanglier s'appelle la laie.
La maman sanglière.
La maman ou la putain, comme vous voudrez. Et donc, elle s'est mise vers...
Ce sont les défenses de Gilles Kepel qui s'entrechoquent.
Exactement. Et ça s'appelle, dans le langage de la vénerie, casser la noisette. Et c'est le moment où elle effraie l'ennemi avant de partir. Là, j'étais très mal parce que j'allais...
Il faut dire, un sanglier, ça vous fait tomber et après, ça vous égorge.
Non, c'est la jugulaire. La laie, en général, c'est la laie. Ou le sanglier, le noir, comme on l'appelle, quand il est attaqué, il fait front. Et il se précipite sur l'adversaire avec un coup de boutoir. C'est on connaît le coup de boutoir, mais on ne sait pas que le départ, c'est le groin du sanglier, son groin très épais, en espèce de cuir épais, qui vous envoie valdinguer à 3 mètres en haut. Et quand vous retombez, il vous jette sur où vous êtes à terre. Et il vous tranche la cuisse. Et s'il n'y a pas le SAMU qui vous élitreuil en 30 secondes, c'est fini. Ouais. Donc, que faire ? J'ai levé, parce qu'il n'y voit pas grand-chose, en fait, ces deux-là. Il voit des formes. J'ai levé le bras pour qu'il pense que j'étais plus grand que je n'étais. J'ai poussé un rugissement que je ne suis pas capable de vous refaire ici, parce que j'ai mal à la gorge aujourd'hui, parce que vous auriez trop peur.
C'est dommage, oui.
Et qui était le rugissement du sanglier, le nasillement, comme on dit, du sanglier. Et le jeune qui était près de moi, le jeune sanglier, le cartanier, comme ça s'appelle, m'a regardé. Et puis, il m'a reconnu comme l'un des siens.
Il s'est dit, voilà.
Et il s'est dit, bon, c'est normal, il faut lui laisser sa part des pommes pourries à manger. Oui. Et ils sont partis en asillant et en grognant. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la Pérouse.
J'ai trouvé tout ça dans Enfants de Bohème, que vous avez publié l'an dernier chez Gallimard. J'ai également appris que vous aviez suivi un cursus très prestigieux, puisque vous avez fait le lycée Montaigne, le lycée Louis-le-Grand et Sciences Po Paris. C'est-à-dire exactement la même chose que moi-même. Et donc, je voulais vraiment vous féliciter pour
C'est moi qui vous félicite.
Ce cursus formidable.
J'ai raté l'école normale supérieure.
Où vous avez enseigné quand même.
Donc, oui,
ils acceptent les...
Ben justement, c'est un peu aussi ce qu'il y a derrière mon éviction en ce moment. C'est oui,
qu'ils se sont aperçus voilà,
qu'ils ont tourné. Non, allez, ceux qui m'ont fait entrer avaient des idées beaucoup plus paradoxalement progressistes que les gauchistes qui aujourd'hui me foutent dehors. Oui, j'ai eu 4 en philo, 4 en français et 4 en histoire sur 20. Et à l'époque, on disait l'agriculture manque de bras. Aujourd'hui, on dirait Uber Eats, c'est un métier en tension, si vous voulez. Et du coup, bah, comme je n'avais plus rien à faire, j'avais tout raté. Je suis parti au Moyen-Orient.
Mais oui, mais c'est ce qui a décidé de votre vocation.
Voilà, parce que en fait, avec un de mes camarades, c'est une année un peu compliquée. Ma mère était décédée cette année-là, ça arrive. Et donc, j'écoutais pas un très bon élève, et je regardais surtout la carte qui était au-dessus du tableau, qui était la carte de l'Empire romain de Jean Bruns, avec toute la Méditerranée, avec des vous avez peut-être ça en tête certainement,
bien sûr.
Avec des couleurs. Enfin, je vous parle d'un temps que seuls les moins de 20 ans peuvent encore connaître. La carte murale a disparu au profit du PowerPoint aujourd'hui.
Du Google Maps.
Oui, c'est ça. Oui. Et donc il y avait ces couleurs différentes des régions depuis l'Écosse jusqu'au Royaume Parthe, en fonction de leur date d'entrée dans la République ou dans l'Empire. Et ça m'avait fait rêver, et avec un de mes camarades, donc nous sommes embarqués sur un bateau soviétique à Venise en 1974 pour faire le tour de la Méditerranée. On a été bloqué dans le canal de Corinthe parce que les Turcs avaient envahi Chypre. On est arrivé au Pirée le jour de la chute des colonels, et on a traversé tout ça. J'étais un peu un Ulysse qui s'est.
Mais c'est ce que vous racontez dans Prophète en son pays.
Voilà, qui a découvert son épectase intellectuelle, évidemment, à Pamé de Syrie. Quand je suis rentré, je ne savais plus quoi faire, plus personne ne voulait de moi, un peu comme aujourd'hui. Et je me suis dit, sauf Frédéric Becbédé.
Voilà.
Et je me suis dit, eh bien, le seul endroit où j'étais heureux, c'était en Syrie. Mm-hmm. Pauvre Syrie, où je ne pourrais plus jamais remettre les pieds, sans doute. Et par curiosité, j'ai décidé d'apprendre l'arabe, alors que rien ne m'y prédisposait, contrairement à ce que des gens... Donc, sur moi, je ne suis ni juif, ni pied noir, ni musulman, ni converti, ni quoi que ce soit. Et on était 500 au premier cours, 250 au deuxième, 125 au troisième, etc. Et à Noël, il n'y avait plus que votre serviteur, qui était désespéré, amoureux, transi et raide dingue de la répétitrice yéménite. C'est pourquoi je prononce assez bien l'arabe.
Mais attendez, vous dites quand même que quand vous êtes arrivé dans les pays arabes avec votre arabe appris comme ça, là, on se moquait un peu de vous parce que vous parliez comme un livre. Vous ne parliez pas du tout le vrai arabe.
Je parlais comme quand je parle à la radio en français, Frédéric Becbédé.
Oui, c'est ça, d'un français beaucoup trop châtié pour moi.
Exactement.
Alors, je fais mon jeu devine tes citations. Je vais vous lire des citations de vous. Vous devez me dire dans lequel de vos livres vous avez dit ceci. Comme une bonne partie des étudiants de ma génération au Quartier Latin, j'avais milité dans un groupuscule gauchiste dès le lycée.
Ça, je crois que c'est dans le dernier.
C'est dans le dernier.
J'ai toujours écrit le même livre, un peu comme une sorte de Patrick Modiano au petit pied. Patrick Modiano, d'ailleurs, qui vient d'une famille juive égyptienne d'Alexandrie.
Mm-hmm. Bien sûr. Qui est venu dans notre émission il y a peu.
Formidable. Je suis très honoré de lui avoir pris sa suite.
Vous critiquez les gauchistes qui vous ont viré, mais enfin, comment pouvez-vous faire ça puisque vous étiez à la Ligue communiste révolutionnaire.
Vous étiez
un trotskiste.
Oui, ce qui
me donne... Vous vendiez le journal rouge.
Le journal de ci-devant camarade Krasny, aujourd'hui Edoui Plenel, qui me vilipende à longueur d'éditoriaux désormais. Enfin, qui me vilipendait, parce qu'aujourd'hui, il n'ose plus trop. Et c'est aussi ce qui me permet de trouver les clés du mélanchonisme de l'intérieur.
Vous en faisiez partie.
Non, mais ça, c'était notre ennemi mortel. Si les lambertistes avaient gagné... Il aurait fait tout de suite pendre les gars de la LCR au écourt. Et nous aurions fait fusiller les lambertistes.
Voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'il est si bon pour étudier le terrorisme, parce qu'il en est un.
Vous ne croyez pas si bien dire, quand j'ai commencé mon travail sur les djihadistes en Égypte, enfin, ça ne s'appelait pas encore comme ça, quand j'ai fait ma thèse, donc je sortais tout juste de l'université, j'avais jeté ces illusions par-dessus les moulins, mais... J'avais encore l'habitus, comme dirait Bourdieu. C'est-à-dire que les gars qui faisaient des prises de parole, qui mettaient la fac en grève, qui distribuaient des tracts, qui diffaient, comme dirait, je savais très bien ce que c'était, à part que moi, c'était pour la 4e internationale.
Oui. Alors que mais eux, les méthodes sont les mêmes. Oui.
Oui, ça ne veut pas dire que tout est dans tout et réciproquement. C'est ce qui m'a opposé à Olivier Roy, qui disait c'est tout pareil, il y avait les brigades rouges puis les brigades vertes. C'est pas la même chose de tuer Hans-Martin Schleyer, ou le patron des patrons allemands, ou Aldo Moro, quand on est brigade rouge ou les Rote Armée Fraktion, et de dégorger des juifs. Comme ça a été fait le 7 octobre.
Toujours un musicien tchèque, choisi par vous, Leos Janáček, ouverture de la petite renarde rusée. Mélange de civilisation, vous voyez.
Avec BD sur Radio Classique.
Je suis toujours avec Gilles Kepel pour parler de Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire et je poursuis mon jeu Devine tes citations. Alors, il rêvait de la closerie des Lilas tel un pieux musulman de la pierre noire de la Mecque.
Ça, c'est facile. C'est cet enfant de bohème. C'est mon grand-père qui arrive à la closerie en 1907.
Et ce qui est fou, c'est que votre grand-père était tchèque et il a tout de suite connu Max Jacob, Jean Giraudoux.
Apollinaire, surtout.
Apollinaire,
il est venu pour le traduire. Alors, je raconte, peut-être en le fictionnalisant un peu, enfin, j'ai repris la nouvelle d'Apollinaire dans Hérésiarque et compagnie qui s'appelle Le passant de Prague. Et j'ai fait en fait de cette promenade, une promenade avec mon grand-père. Ils se seraient rencontrés en 1902 quand Apollinaire est effectivement venu à Prague. Mais après, c'est vrai qu'il a traduit en tchèque. Et au moment où j'écrivais ça, d'ailleurs, je suis un providentialiste athée, c'est-à-dire je ne crois pas en Dieu, mais je fais attention aux signes. Un érudit belge m'a contacté parce qu'il y avait dans le web des choses sur le fait que j'étais allé voir la villa de mon grand-père avec l'ambassadeur de France en Tchécoslovaquie, quelqu'un de tout à fait remarquable, parlait parfaitement tchèque, Jean-Pierre Svadagourian à l'époque. Il y avait des photos, tu vois. Et puis cet érudit, voyant ce nom, en le cherchant, m'appelle et me dit « Écoutez, voilà, monsieur, je suis éditeur de la correspondance d'Apollinaire. Maintenant, j'étudie la correspondance de ceux qui lui ont écrit et j'ai trouvé une lettre de votre grand-père. » dont je n'avais pas la moindre idée, mais je l'avais tout reconstruit, si vous voulez, la réalité...
C'est comme ça. C'est parce que vous êtes peut-être aussi un romancier.
Et oui, bah alors c'est pas ce qu'a cru mon éditeur précédent. On ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup poussé le livre, d'ailleurs ça me fait que je l'ai quitté.
Autre phrase de vous. Le djihadisme ne sera éradiqué que si ses bases sociales le sont.
Ça, j'aurais pu le dire dans à peu près la totalité de mes bouquins. Donc...
Mais c'est dans La Fracture, 2016.
Oui.
Mais c'est qu'on sent toujours quand même qu'il y a le gauchiste, au fond, qui est là. Parce que vous croyez, comme vous l'avez dit tout à l'heure en commençant, vous pensez que quand, le jour où la pauvreté sera éradiquée, ou le jour où il n'y aura plus la misère, dans, par exemple, dans la bande de Gaza, eh bien, il y aura moins de violence, quoi.
Oui, enfin, j'en fais pas non plus une lecture mécanique. Hein. Le religieux ne se réduit pas exclusivement à, à une mixture de conditions sociales favorables ou défavorables. Mais bien évidemment, ça fournit un aliment extraordinaire à ceux qui veulent utiliser le religieux pour en faire quelque chose qui arme la violence sociale. L'islam, comme le christianisme, comme toutes les autres religions, a servi aux deux. C'est ce que Bourdieu appelait la double position polaire des clercs religieux. À la fois dire aux gens « calmez-vous, parce que je vais moi dire aux despotes d'être moins despotiques, et s'il ne l'est pas, allez-y, révoltez-vous au nom de Dieu contre le despote mécréant », et puis de dire aux despotes « allez, calme-toi, sois moins méchant, et je dirais qu'il faut obéir, si vous voulez. » Bon, c'est comme tout le Bourdieu, c'est un manichéisme qui ne faut peut-être pas pousser jusqu'au bout, mais que j'ai trouvé, moi, toujours stimulant intellectuellement à condition de ne pas en abuser. C'est comme le whisky japonais.
Dernière phrase de vous. Quelques années plus tard, vous parlez de votre quartier d'enfance. L'immigration chinoise déploiera son empire sur les commerces du quartier, écrasant du même coup halal et kasher sous le rouleau compresseur du NEM.
Alors ça, effectivement, c'est sur le quartier de Belleville où j'ai...
Oui, où la rue Jean-Pierre Timbaud.
Voilà, où j'ai passé, enfin juste un peu plus au nord, où j'ai passé les 15 premiers jours de ma vie.
15 premiers jours ?
Jours, exactement, avant d'être envoyé chez ma grand-mère, qui était directrice d'école à Nice, qui avait un logement, puisque... J'avais été fabriqué dans l'urgence par mon père, naturalisé en 54. On naturalisait tous les jeunes hommes à l'époque pour les envoyer se faire tuer en Algérie, surtout les métèques qui n'avaient pas de famille, vraiment, et qu'on envoyait comme chair à canon. La seule manière de ne pas être tué, c'est d'être soutien de famille. Et c'est ainsi que votre serviteur a été fabriqué de manière expresse.
Vous devez beaucoup à la guerre d'Algérie.
Oui, mais c'est peut-être aussi ma carrière, parce que j'ai expié, osé le fait que si mon père n'est pas mort... Si je suis né justement pour qu'il ne soit pas tueur d'arabe ou qu'il ne soit pas tué par un arabe. Et donc j'ai passé ces 15 jours et ensuite j'étais là. Donc simplement mon père acteur sans travail et ma mère qui était la première à l'agrégation d'anglais pour une petite fille d'une petite institutrice alpes-maritimes, on était très fiers, mais on l'avait envoyée à Douai. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ce mouflet? J'étais né, j'avais sauvé la vie de mon père par naissance, mais j'étais quand même, je les emmerdais, parce qu'il fallait bien faire quelque chose de moi. Donc, m'a confié ma grand-mère, d'où ma connaissance du Midi, qui est un peu ma vraie patrie, en réalité.
Vous vivez à Menton.
Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que alors, où est-ce que j'ai écrit ça? Je crois que j'aurais pu l'écrire dans le dernier.
C'est dans le dernier, bien sûr.
Et son pays, voilà. Parce que
longue réponse, mais bonne, mais juste, voilà. Prophète en son
J'essaie
pays.
J'essaie de noyer un peu le poisson pour avoir la mansuétude de l'examinateur.
Ce qui m'amusait dans cette question, c'est l'écrasement de à la fois le halal et le kasher sous le rouleau compresseur du NEM. Parce que je pense que c'est peut-être la métaphore du futur. On se fait la guerre, mais on finira tous chinois. Comme l'avait prévu d'ailleurs Jean-Yann.
Joriane et Perfit aussi.
Oui. Quatrième choix musical de Gilles Kepel, c'est Thomas Zaruba, compositeur et pianiste français d'origine, tchèque encore. Vous êtes vraiment un militant de ce pays. Enlightenment, extrait de son album Undercover.
Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Je crois que c'est un ami à vous, Thomas Zaruba.
Oui, je l'ai connu lors d'une conférence sur Enfants de Bohème, où parmi le rare public, il était là, accompagné par mon ami Jacques Roupnik, qui lui est un vrai spécialiste de notre région d'origine. Et puis on a sympathisé, et j'ai appris que son père avait été l'élève de ma mère au lycée Rodin.
Oh,
vous voyez, donc tout ça a fait quelque chose qui termine bien votre émission.
Mais oui.
Et je recommande à tous les producteurs de produire Thomas Zaruba, car c'est un inédit qui n'a pas encore été pressé.
Oui.
Après avoir entendu, voilà. Je suis sûr qu'il aura des contrats qui iront de CBS, je ne sais, World Music, enfin.
Ça va sans dire.
Je compte sur vous.
Alors, en conclusion, j'ai une question à laquelle il est très compliqué de répondre en peu de mots, mais vous allez devoir le faire car l'émission s'achève.
Bon.
C'est la question qui tue. Croyez-vous à une guerre mondiale opposant l'Occident, Europe, États-Unis, Israël, au totalitarisme, Russie, Chine, Turquie, Iran ?
C'est l'une des failles, effectivement, qui est en train de se dessiner. Son inéluctabilité n'est pas assurée. Et c'est bien pourquoi je crois que le travail que les gens dans mon genre mènent est important,
oui,
pour essayer de l'éviter, ou en tout cas de faire en sorte que les blocs ne puissent pas se réunir. Pendant que nous parlions, nous apprenions que le patron du Hamas, Ismaël Haniyeh, est arrivé au Caire, une zone beaucoup moins sécure pour lui que ne l'est le Qatar, où il réside habituellement, pour entamer des négociations. Donc vous voyez que le travail, parfois...
Espérons une lumière au bout de ce tunnel d'horreur.
Inch'Allah.
Merci infiniment d'être venu passer une heure en notre compagnie. Je remercie également toute l'équipe, le producteur Philippe Gau, Mathieu Roch, Lago à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le concert du samedi soir qui sera consacré au Requiem de Mozart, dirigé par Ton Koopman à la tête du chœur et de l'orchestre du Capitole de Toulouse.
Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé en partenariat avec Le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.